Journée d'actu avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Bonjour et bienvenue dans C'est d'actu. Au programme aujourd'hui du théâtre, nous vous présenterons le Théâtre du Passeur avec sa directrice Marie Streaiano, mais aussi avec un comédien de la compagnie Caprice qui présente ce week-end du 12 et 13 octobre la pièce Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset. On se déplacera ensuite vers les Quinconces avec Samuel Gallet, responsable du collectif Escandar, qui représentera le pays innocent du 16 au 18 octobre, une fable écologique post-apocalyptique qui laisse la place à l'imaginaire et au possible. Mais avant cela, nous allons écouter la chronique de Corinne Tironneau, qui, comme tous les 15 jours, vient à notre micro et nous parle cette semaine d'un roman d'Alice Develay. Bonjour Corinne Tironneau.
Bonjour Charlie.
Alors, je vous en prie, aujourd'hui, oui, chronique sur la santé mentale.
Et Alice Develay, effectivement.
Et Alice Develay, effectivement. Chronique sur la santé mentale qui est déclarée grande cause nationale 2025 par le Premier ministre Michel Barnier. Et pour l'illustrer et mieux comprendre, un roman poignant et salutaire. C'est donc « Tombé du ciel » d'Alice Develay, présente au Salon du Livre,
oui.
Qui est présentée sous forme d'un journal intime. Elle raconte l'enfer de l'anorexie mentale d'une jeune fille de 14 ans enfermée contre son gré. Alors oui. Déjà, est-ce qu'on peut commencer? Pourquoi la santé mentale a-t-elle été déclarée grande cause nationale 2025?
Oui, mais on se le demande, Charlie, parce qu'en fait, elle aurait pu être déclarée grande cause nationale depuis un moment, parce que le problème n'est pas du tout nouveau. Alors, c'est grâce aux actions menées depuis des années par plus de 3000 associations et structures, et grâce à la pétition qui a été engagée en début d'année, que le gouvernement a décidé de faire de la santé mentale, qui nous touche tous, une priorité nationale. Alors, il faut enfin que ce soit reconnu, la santé mentale, comme une composante essentielle de notre santé, et puis d'y mettre les moyens. La santé mentale, c'est un tout. Il n'y a pas que les personnes qui sont très, atteintes de troubles graves, il y a aussi ceux qui sont moins... Et puis, oui, les handicaps invisibles, les maladies invisibles qu'on ne soupçonne même pas.
On en parlera plus en détail la semaine prochaine dans C'est d'actu.
Voilà. Alors, quelques mots sur cette pétition qui circule toujours et qui a déjà recueilli presque 30 000 signatures. C'est une grosse pétition et on peut toujours la signer sur change.org. Par exemple, il y a plusieurs sites qui la proposent. Et excusez-moi, j'ai un problème de masque.
Ah oui, la buée sur les lunettes.
Bon, je vais y arriver. Alors, cette initiative a pour but de faire entendre la voix de ceux qui sont affectés de troubles psychiques et aussi de leurs aidants, ça c'est important, qui sont le plus souvent seuls et très démunis par rapport aux difficultés dont on n'a pas la moindre idée. Alors, il faut savoir que la période du Covid, du fait de l'isolement social imposé, a fait émerger des pathologies psychiatriques et que beaucoup de patients qui étaient déjà connus, mais des patients qui ont décompensé. Leur maladie s'est aggravée. Et ce sont surtout les jeunes qui sont touchés et qui ont été touchés par cet isolement imposé. Et il faut savoir aussi, et tout le monde le sait, je pense, que le secteur des soins a été drastiquement réduit ces dernières années.
Alors, est-ce qu'il y a des chiffres concernant cette augmentation des problèmes de santé mentale ?
Oui, je vais vous en donner quelques-uns. Il faut savoir que la maladie mentale et les troubles psychiques touchent près de 1/5 de la population. Donc, ça fait un Français sur 5. Si je calcule bien, soit 13 millions de Français, et ce sont les données de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et pour preuve, on sait que les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes du monde. C'est nous qui mangeons le plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, par exemple. Alors, la dépression est le trouble le plus répandu et concerne environ 15 à 20% de la population générale de France, selon l'INSERM. Ce sont des chiffres sérieux que je vous donne. C'est énorme, je trouve, 15 à 20% de la population déprimée. Mais ce qu'il faut absolument retenir, ce sont les 3 millions de personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères, et parmi eux, beaucoup n'ont pas de suivi par manque de moyens. Alors en France, le suicide est la première cause de mortalité pour les jeunes entre 15 et 35 ans, avec environ 8 300 décès et 200 000 tentatives. par an. C'est beaucoup, hein.
C'est des chiffres impressionnants.
Ouais. Voilà, et la France, il faut quand même reconnaître qu'il y a une tendance à la baisse depuis quelques temps, conserve quand même l'un des taux de suicide les plus élevés des pays européens. Alors, je n'ai pas réussi à trouver de véritable classement, mais peu importe, c'est un chiffre élevé. Hein, parce que selon la façon dont on compte les tentatives, bref. Alors, c'est un très grave de problème de santé publique, hein, le suicide, ou la tentative de suicide, parce que c'est presque pareil. Car s'ajoute aussi à cette souffrance celui des dépenses de l'assurance maladie, des pertes de revenus des personnes atteintes de ces troubles et puis bien sûr les conséquences sur la famille. Voilà.
Et alors, quelles sont les raisons du manque de moyens dans le secteur de la santé mentale ?
Alors, il y en a beaucoup, c'est multifactoriel. Et en résumé, je peux affirmer que les moyens sont loin de correspondre aux besoins. D'autant que la société évolue et la précarité qui augmente n'arrange rien. Le secteur de l'hôpital psychiatrique est en crise depuis des années, le secteur de l'hôpital en général, mais celui de l'hôpital psychiatrique est en crise, encore plus en crise, je dirais, en raison des restrictions budgétaires qui a entraîné un nombre incroyable de fermetures de lits et par le manque criant d'effectifs. Alors ça, c'est important de le détailler un peu, c'est d'après la Fédération hospitalière de France, il y a plus d'un quart des postes qui sont vacants dans 40% des établissements publics. C'est énorme. Ça veut dire que presque la moitié des hôpitaux psychiatriques, il leur manque un quart des postes. Et ils sont budgétés, les postes. Hein. Ce n'est pas une question d'argent, là, du coup. C'est une question pour trouver le personnel. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'il y a un gros manque d'attractivité du secteur et puis une très mauvaise réputation. Alors, dans le privé, les infirmiers libéraux ont des réticences à assurer un suivi de ce type de patients à risque, car elles ne se sentent absolument pas soutenues et qu'elles manquent quelquefois de compétences. Donc, il faudrait qu'elles soient davantage formées. Et sans compter les délais très longs pour avoir une consultation avec un psychiatre dans le privé. Mmh. On peut attendre des mois, alors qu'il peut y avoir vraiment une urgence. Alors, il faut aussi avoir les moyens d'avancer le prix d'une consultation qui est au minimum de 55 euros pour aller voir un psy quand même. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui ont le plus besoin d'un suivi, ce sont les jeunes et particulièrement les jeunes filles qui sont les plus touchées. Il a été constaté une forte hausse des mutilations et des tentatives de suicide chez les adolescentes depuis la fin du Covid.
Et c'est maintenant qu'on va parler de « Tomber du ciel », le roman d'Alice Devlay.
Voilà. Donc, c'est un témoignage poignant sur l'enfer de l'anorexie mentale. Alors ça, c'est un peu un tabou, l'anorexie mentale. Donc c'est un enfer vécu par Alice, une jeune fille de 14 ans, encore une enfant, qui s'est retrouvée enfermée à l'hôpital contre son gré parce qu'elle ne pesait plus que 36 kilos pour 1m64. Donc vous imaginez, c'est très très...
C'est fort.
Oui. Et qu'elle refusait de se nourrir. Alors important de vous donner la définition de ce qu'est l'anorexie mentale selon... l'OMS, selon l'Inserm, c'est une maladie officiellement caractérisée par un trouble du comportement alimentaire essentiellement féminin, entraînant une privation alimentaire stricte et volontaire associée à des troubles psychologiques. Alors je vais traduire. Ce sont des jeunes filles le plus souvent qui sont très malades psychiquement, qui veulent mourir et qui se laissent mourir et qui auront beaucoup de mal à guérir car elles ne peuvent plus manger. Voilà, je rajoute ma petite touche personnelle en fonction des échanges que j'ai eus avec Alice Devlay au Salon du Livre. Alors, cette maladie touche quand même 1,5% des jeunes filles entre 15 et 25 ans, ce qui est quand même beaucoup, je trouve, avec un taux de mortalité de 12% parmi elles. Moi, je trouve ça effrayant, vraiment. Et Alice Devlay écrit que c'est la maladie du vide, que c'est comme une ortie géante qui pousserait à l'intérieur de soi et que c'est comme une possession. Elle écrit que c'est l'explosion d'une étoile et elle compare toutes ces jeunes filles à des oiseaux qui tombent du ciel, fusillées en pleine adolescence par cette terrible maladie.
Et alors pourquoi Alice Devlay a-t-elle eu besoin d'écrire ce livre ?
Parce qu'elle a voulu raconter le point de vue d'une enfant de 14 ans, parce que c'est d'après sa propre expérience, qui doit supporter des traitements très lourds, puisqu'on l'attache, on l'assomme avec des médicaments, en la privant de tout ce qu'elle aime. À 14 ans, on ne comprend pas ça. Surtout quand on ne peut pas manger. Alors en lisant son livre, j'ai ressenti la solitude d'Alice, son sentiment d'injustice. J'ai compris sa révolte et sa colère devant l'incompréhension et la dépersonnalisation dont elle est victime de la part des soignants qu'elle trouve bien ternes et tellement impuissants à l'aider. Elle a aussi écrit pour aider les proches à comprendre cette maladie et pour nous dire que la patience est un remède. Donc voilà, il y a pas, faut pas s'accrocher au fait qu'elle ne mange pas, faut être patient, il faut attendre et puis être très aimant. Et surtout pas faire de reproches. Alors à travers l'histoire d'Alice, on prend conscience des grandes difficultés de la pédopsychiatrie et comment on y traite parfois les enfants qui ne sont pas du tout considérés comme des personnes. Ça aussi, c'est un problème en pédopsychiatrie. Et son livre, moi j'espère qu'il va faire bouger les lignes. Et je la cite, quand elle s'adresse aux soignants, elle dit « Vous avez raison, indignez-vous. Ce que je raconte est insupportable parce que la vérité est insupportable. »
Et alors, quelques mots sur Alice Develay pour finir.
Alors, Alice Develay, elle va bien aujourd'hui. Elle a 32 ans et elle travaille comme journaliste et elle est critique littéraire au Figaro. Et Tombé du ciel est son premier roman qui est paru aux éditions de l'Iconoclaste. Elle a été récompensée par le prix Première Plume. Alors, c'est un récit poignant, écrit à partir d'elle-même, c'est elle qui le dit comme ça, comme un journal intime, comme tu me disais, Charlie, avec une écriture à la fois crue et très poétique, un roman que j'ai trouvé bouleversant, qui aidera à mieux comprendre ces enfants au pyjama trop grand qui se battent désespérément pour exister.
Bien, merci Corinne Tirono. On vous retrouve bientôt sur notre antenne.
À bientôt Charlie.
Super, formidable. On passe du coup à nos premiers invités d'aujourd'hui. On va parler du théâtre du passeur avec Marie Streaiano, sa directrice, mais aussi un comédien et metteur en scène de la compagnie Caprice. C'est Maxime Tête. On écoute tout de suite.
Radio Alpa, l'alternative.
Bonjour Marie Streaiano et Maxime Tête, merci d'être venus avec nous sur notre antenne. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Marie Streaiano, vous êtes la directrice du Théâtre du Passeur, un théâtre qui met en avant le patrimoine littéraire. Vous nous en direz plus dans quelques instants. Maxime Tête, vous êtes le directeur artistique et metteur en scène de la compagnie Caprice, qui présentera Les Caprices de Marianne, pièce d'Alfred de Musset, le 12 et 13 octobre au Théâtre du Passeur. Et vous avez déjà effectué une présentation le week-end dernier, le 5 et 6 octobre. Alors pour commencer, Marie Streaiano, est-ce que vous pourriez nous parler du Théâtre du Passeur? Quelle est sa ligne artistique?
Alors le Théâtre du Passeur a 20 ans cette saison.
D'accord.
Donc on est content parce qu'il est là, toujours avec une équipe attentive d'artistes et de techniciens professionnels. Et aussi entouré par de fervents amateurs du théâtre qui pratiquent. Et le Théâtre du Passeur m'a été transmis donc par Jackie Boiron, qui l'a créé avec une ligne dès le départ très très dessinée et très inscrite du patrimoine littéraire et oral. Et ça on y tient puisqu'on le décline avec le théâtre, le conte et la lecture depuis ses débuts, donc en 2004.
Alors le patrimoine littéraire et oral, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Patrimoine littéraire et oral du monde entier, et ça on tient à le souligner, c'est-à-dire tout ce qui fait référence un peu à la mémoire collective, hein, de ce qu'on a toujours entendu. Ah ben tiens, Musset, mais je connais Musset, enfin, voilà, ça fait partie des choses que j'ai rencontrées dans mon parcours, de ce qu'on a tous un peu en commun, on va dire. Voilà, sur...
Et alors pourquoi cet objectif de valoriser un imaginaire collectif?
Parce que ça s'est inscrit dès le début par l'identité artistique de Jackie Boiron, qui est un fou de littérature, et de Patrice Connard aussi, son acolyte, tous les deux, voilà, comédiens et fervents lecteurs à haute voix de textes, interprètes et aussi metteurs en scène. Et quand on s'est rencontrés avec Jackie Boiron, j'étais sur le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, et aussi conteuse. Donc ça fait partie de mon identité artistique, donc pour moi ça a été tout naturel de continuer à développer ce projet-là.
Alors, est-ce à dire pour autant que le Théâtre du Passeur ne laisse pas de place au théâtre contemporain ?
Non, pas du tout, parce que c'est vrai qu'il a sa place, les écritures originales aussi, grâce à des compagnies professionnelles qui sont associées au Passeur, donc avec lesquelles justement on ouvre d'autres brèches et d'autres pistes, d'autres axes, puisqu'ils travaillent au quotidien avec le public du Passeur, avec le public amateur. Ce sont la compagnie La Cigale Spectacle, avec Élodie Boulard, qui l'année dernière donc, a créé Guerre et si ça vous arrivait, de Jeanne Taylor. Donc voilà, en tissant du lien avec les enfants, les ados, les adultes qui rayonnent autour du Passeur et qui viennent pratiquer le théâtre, et aussi avec d'autres structures culturelles. Et aussi avec la compagnie Au Tournant, donc Maxime Pichon, qui lui est dans une écriture originale de Anonyme Passager, Qu'est-ce qu'avoir 25 ans sur la planète bleue. Voilà, donc c'est un lieu où ces deux compagnies professionnelles qui nous accompagnent sur toute la saison auprès du public, nous, le Théâtre du Passeur, nous souhaitons les accompagner dans leur recherche artistique avec le concours du spectateur pour lui faire découvrir voilà, d'autres choses et que ça puisse être vraiment quelque chose qui rayonne.
Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le conte semble central dans la pratique théâtrale du Théâtre du Passeur. Pourquoi cette place prépondérante du conte, du récit oral ?
Alors, le récit oral fait écho au récit écrit et inversement, puisqu'il y a eu souvent des personnes qui ont retranscrit les histoires, donc on peut reprendre les frères Grimm ou d'autres encore, hein, mais pas que, il y a Antoine Galland aussi. Dans le monde, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a encore un hommage à Henri Gougaud, hein, qui nous a quittés donc en mai dernier. Voilà. Et il a été très tôt au Théâtre du Passeur avec Yannick Lefeuvre, donc qui a tout de suite développé une programmation. Hein. Il a conté très tôt, lui, au Théâtre du Passeur, hein, dans les années qui ont suivi la création du Passeur. Et moi, en arrivant, donc, j'ai aussi cette identité-là, ce savoir-faire. Je l'ai continué. Puisque l'oralité, c'est ce qui permet aussi que les choses se transmettent.
Alors, dans l'étude de l'ASTP, c'est-à-dire l'Association de soutien au théâtre privé de 2023, les 50 ans et plus constituent toujours le moteur de fonctionnement du théâtre, puisqu'ils représentaient 43% du public. Du coup, est-ce que cette place importante donnée au conte permet d'accéder peut-être à un public plus jeune ?
En fait, ça permet d'accéder au public tout court.
D'accord.
Puisqu'on remarque que les personnes qui viennent pour le conte, c'est toutes les générations. C'est celles qui ont entendu Yannick il y a 20 ans, donc qui emmènent maintenant leurs petits-enfants, leurs enfants. Donc on a trois générations qui viennent. Lors du temps fort, les petites goules qui aura lieu d'ailleurs là, du 21 au 23 octobre, ce sont toutes ces générations-là qui viennent. Et donc des adultes qui disent « mais en fait, mais c'est pour les adultes le conte ». Oui. Et ce qui nous a permis là de faire venir Pierre-Olivier Banwars, un grand conteur mayennais, qui est dépositaire d'ailleurs du travail d'Henri Gougaud, le 29 septembre dernier, avec un public voilà, d'une grande écoute, d'une grande qualité, et qui était là pour être dans la recherche attentive, et puis une belle évasion sur les mots et l'imaginaire, puisque c'est ce qui nous rassemble, ce sont les histoires.
Et alors qu'est-ce que c'est du coup le projet conte ? C'est quelque chose qu'on peut voir sur le site de votre théâtre ?
Oui, tout à fait, on peut le voir, ça fait partie comme sur le théâtre ou la lecture. Le projet conte, c'est un endroit, le Théâtre du Passeur, où on peut venir travailler sur une recherche autour des histoires que l'on a pour un rayonnement sur le territoire, c'est-à-dire que moi, je vais conter sur le territoire, voilà, dans d'autres lieux. Une autre conteuse aussi, Imen Seba, qui est une artiste associée, donc c'est-à-dire qui développe des projets au passeur, mais qui les fait rayonner aussi à l'extérieur et retrouver les histoires qui vont rassembler chacun.
Alors, je me tourne à présent vers vous, Maxime Tête. Vous représentez avec votre compagnie Caprice, ce week-end du 12 et 13 octobre, la pièce d'Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette pièce ?
Eh bien, c'est une pièce d'Alfred de Musset, donc, écrite en 1933 et jouée pour la première fois que 10 ans plus tard. C'est une pièce qui raconte l'histoire de Célio, un jeune noble qui est fou amoureux de la belle et prude et mariée Marianne, qui est mariée avec un éminent juge de paix. Et Célio a tenté par tous les moyens de lui faire connaître son amour, et il n'y est jamais parvenu. Alors, dans un dernier espoir, il envoie son meilleur ami, un libertin, dépravé, alcoolique et très grand fêtard, Octave, essayait d'aller draguer Marianne. Mais évidemment, ça provoque quelques petits problèmes de jalousie.
Ça fait un peu penser à l'intrigue de Cyrano, du coup, mais c'est pas du tout le même ton, non ?
C'est un ton... On reste principalement dans un espace de comédie, aussi, comme Cyrano, donc c'est très drôle. On joue énormément avec la langue. Le langage a une place prépondérante chez Musset, à l'instar de chez Rostand. Mais à la différence...
Vous pensez que le rapprochement, il est un peu trop forcé, peut-être ?
En fait, ça ne raconte essentiellement pas la même chose, je pense.
Moi, je pensais à ça à cause de l'intrigue d'un homme qui est amoureux d'une femme qui se sert d'un autre homme.
Complètement. Complètement, mais dans le sous-texte et dans le message, ça ne raconte pas la même chose, puisque avec les caprices de Marianne, on parle plutôt de désir, au fond. Quand on va creuser en essence dans le texte, on part du désir de la femme, de l'acceptation de ce désir-là. Et voilà.
Et alors pourquoi jouer cette pièce aujourd'hui ?
Parce que parce que cette pièce et les classiques en général peuvent encore et résonnent toujours avec nos actualités, et même on peut aller chercher nous des questions, des réponses dans ces grands textes.
Mais alors, de quelle manière est-ce que vous la rendez contemporaine dans votre mise en scène ?
Contemporaine, c'est dans l'approche peut-être du travail qu'on a fait avec les acteurs et l'équipe technique. Nous, ce qu'on voulait avant tout, c'était faire du théâtre pour faire entendre ce texte-là, mais un théâtre pour l'acteur aussi.
D'accord.
Et donc, dans notre approche contemporaine, on ne déploie pas un imaginaire de ce qu'on pourrait appeler un théâtre, même si j'aime pas le terme musée, ou avec ses grands costumes d'époque, etc. Ce sont des costumes à mi-chemin entre un imaginaire classique, un imaginaire contemporain. On déploie un nouvel espace pour essayer d'avoir une approche...
Et dans votre mise en scène, il y a un rôle particulier de l'obscurité et de la lumière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bien, parce que Alfred de Musset fait partie du courant romantique et notamment est à la frontière du romantisme noir. Et donc, il était important pour moi de travailler ça autour de ce texte, d'avoir cette plongée du romantisme et de ce désespoir dans lequel sont enfermés les personnages et donc qui essayent par tous les moyens dans l'obscurité de faire leur propre lumière. Métaphoriquement, d'aller chercher l'amour, la solution, être sauvé.
Alors, autre particularité de votre mise en scène, c'est la présence de parapluies. Qu'est-ce qui symbolise ?
Alors, il y a deux choses. Premièrement, le sens métaphorique, c'était pour... c'est un espace qui est intéressant, un espace de jeu pour les comédiens, puisque le parapluie, il y a des lumières qui émanent du parapluie, et donc il déploie un espace intimiste.
D'accord.
Pour les personnages. Et donc le fait de pénétrer cet espace veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça fait quand on vient rentrer
dans cette intimité-là, ouais, dans cet espace intime.
Exactement, ouais, complètement.
Alors à l'époque, la pièce de Musset au milieu du 19e siècle, elle avait fait scandale. Pourquoi ça ?
Parce que ce qui est dit dans le texte, ce sont des questions sociétales qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui peut-être à l'époque ne devaient pas être... entendable, notamment aux questions de la libération du désir et féminin.
D'accord. Oui.
Principalement.
C'est la question du désir féminin qui faisait scandale à l'époque. Alors du coup, parlez-nous un peu de votre compagnie Caprice. C'est une troupe amateur ?
Non, c'est une compagnie professionnelle.
D'accord.
On est une compagnie basée sur Angers. Ça fait maintenant un an et demi qu'on existe et qu'on fait des spectacles tout autour d'une identité esthétique forte et un travail d'acteur exigeant.
Marie Streayano, je crois que le Théâtre du Passeur cependant soutient aussi des compagnies amateurs. Quelles sont-elles et pourquoi est-ce que c'est important de soutenir des compagnies d'amateurs ?
Alors déjà, moi, c'est pour des compagnies professionnelles qui m'importent de parler, comme cette rencontre qu'il y a avec la compagnie Caprice, qui pour moi est une rencontre très importante, puisque ce qui est important, ce sont les émotions. C'est pour ça qu'il y a le spectacle vivant. Et que dans leur spectacle, Les Caprices de Marianne, on est touché par ça. Et que cette notion de parapluie, cette notion de comédie humaine qu'on retrouve très bien dans la mise en scène de Maxime et dans tout le travail lumière qu'a fait Théo, qu'ils ont fait ensemble, parce qu'il faut dire que c'est très rare de rencontrer une compagnie où on retrouve une solidarité incroyable entre les personnes qui sont au plateau, à la régie, à la personne qui accompagne pour la musique, mais aussi pour le bien-être de chacun, c'est-à-dire organiser les temps de repos, les temps où tout le monde mange ensemble, et le metteur en scène. Et là, en accueil, y a quelque chose de... on touche simplement ce que c'est qu'être une compagnie, et une troupe qui sert un texte, qui sert un auteur. Donc c'est très important de voir que y a des émotions qu'on a en tant que spectateur quand on va voir Les Caprices de Marianne et qu'on voit aussi des personnages sur scène enfermés dans leurs émotions. C'est ce que j'ai adoré dans la mise en scène de Maxime Tate, et c'est surtout que j'ai trouvé à propos. Adoré est un bien grand mot. Cela, c'est simplement parler avec un cœur de spectateur hein, quand je dis ça, car je suis une grande spectatrice. Donc voilà le travail. Et puis la rencontre avec Maxime s'est fait d'abord par l'écrit. Et après, il y a eu une belle rencontre, tous les deux, une rencontre de son travail, de son équipe, qui a été très importante dans notre première collaboration qui se fait là. Donc, qui s'est faite en deux temps et maintenant, et qui va se poursuivre, c'est certain. Donc, c'est ça qui est important. Après, oui, les compagnies amateurs. Oui, nous avons la compagnie des transports au Théâtre du Passeur, qui est une compagnie amateur associée au Théâtre du Passeur. dont on soutient les créations et qui nous accompagnent, eux, tous dans la compagnie des transports, dans la vie du lieu. Donc dans l'accueil des spectateurs, dans le prêt de matériel technique, et puis aussi sur d'autres considérations, c'est-à-dire qu'on aime bien parler, se rencontrer, parler de textes, lire des extraits, se dire « Ah tiens, ça, est-ce que tu as vu tel spectacle sur telle scène ?» Voilà, toute cette correspondance-là, pour nous, est très importante. C'est la vie d'un théâtre, c'est un lieu où on se rencontre, où chacun a sa place, et puis où on peut voilà, être là pour le public.
Alors, ce qui est important de préciser aussi, c'est que le spectacle de la compagnie Caprice, Les Caprices de Marianne, c'est le deuxième week-end d'affilée que vous jouez cette pièce au Théâtre du Passeur. Marie Striano, est-ce que cela fait partie de votre politique de programmation de faire jouer certains spectacles plusieurs fois? Et pourquoi ça?
Pourquoi ça? Parce que ça s'appelle du spectacle vivant. Donc, qu'on puisse être en mesure de revoir la pièce, c'est quelque chose qu'on souhaite au Théâtre du Passeur. Parce que le spectateur a aussi est dans un état émotionnel quand il va voir une pièce. Donc, s'il a envie de le revoir une deuxième fois, il verra autre chose, il entendra autre chose. Et voilà, et qu'on puisse inscrire vraiment le texte aussi. C'est comme si on avait lu certaines fois. Donc, c'est incarner le texte. C'est vraiment ça que m'a transmis Jackie dans cette salle. C'est qu'on puisse toucher les auteurs. Comme quand on va voir la pièce. Et le fait de revoir une pièce, ben on est dans quelque chose de durable aussi au niveau d'une politique, quoi. Une petite politique durable. Nous, ça nous plaît bien, du spectacle vivant, parce que c'est éphémère, mais en même temps, ça peut être durable en le revoyant, et même sur une saison prochaine aussi. Puisque c'est ce qui se passe dans notre programmation. On retrouve des spectacles qui ont joué la saison passée. Donc, pouvoir donner cette opportunité-là pour les artistes, mais aussi pour le public, est quelque chose d'important.
Est-ce qu'on peut mentionner les temps forts de la programmation de cette année, notamment le Festival des Amasseurs, qui aura lieu en mai prochain?
Voilà, donc ça, c'est sur une initiative de la compagnie Au Tournant, donc qui accompagne la pratique amateur-adulte au Théâtre du Passeur. On a imaginé ce temps-là, qui va avoir lieu donc sur du 14 au 18 mai 2025, qui regroupera la pratique amateur-adulte et adolescente, conduite par Elodie Boulard, et la lecture adulte par Imen Sebaa, et aussi le clown par Nicolas Béatrix. Voilà un travail qu'on a de complicité avec l'Open Clown. On y tient beaucoup, comme dans le théâtre shakespearien. Voilà, vous avez toujours un clown qui arrive pour vous rappeler que vous êtes en vie. Et donc ces quatre jours-là, ça va être un grand temps fort très festif, où on pourra échanger sur nos pratiques amateurs en relation avec les professionnels.
Maxime, peut-être pour finir, est-ce que vous avez d'autres projets de création ou d'autres dates concernant la compagnie Caprice?
Évidemment. Alors, pour les autres projets de... D'abord, non, commençons par Marianne. On joue le 9 novembre à Torfou, en Mayenne.
Ok.
Et ensuite, on verra pour l'année prochaine. Il y a un deuxième spectacle dans la compagnie que je n'ai pas monté, mais que Théo, mon régisseur son, a écrit et mis en scène, qui s'appelle « Celui qui chante », et qu'on peut retrouver là au Folies Angevines à Angers en février. Et ensuite, nous, on commence à monter, à réfléchir à monter une nouvelle pièce qui s'appelle « La dispute » de Marivaux, qui est aussi un classique, un grand classique. Et à côté, notre projet à terme, dans lequel on est en plein dedans, on crée un festival de théâtre en plein air cet été à Brion, qui est une petite commune à côté d'Angers. Et donc, c'est un festival qui se déroulera le 29, 30, 31 août et en extérieur.
Marie Striano, est-ce que vous pouvez donner simplement les infos pratiques concernant le Théâtre du Passeur? Où est-ce qu'on peut se renseigner?
Alors, le Théâtre du Passeur, avec le téléphone au 02 43 76 65 82. Vous aurez quelqu'un qui vous répondra. Et puis, s'il y a un répondeur, vous laissez le message, on vous rappellera. Sinon, il y a le site internet où il y a billets web en direct pour réserver si on veut. On n'est pas obligé de payer en ligne. Je vous rappelle que ça joue donc ce week-end, samedi et dimanche. Les représentations sont concentrées ce week-end-là sur le samedi et le dimanche. On a reporté celle du vendredi sur le samedi et dimanche. Alors, la jauge est de 49 places. Donc voilà, vous n'hésitez pas à téléphoner pour réserver ou vous rendre sur notre site internet Théâtre du Passeur.
Merci Marie Striano, directrice du Théâtre du Passeur, et Maxime Tête de la compagnie Caprice, qui jouera les Caprices de Marianne ce week-end, le 12 et 13 octobre. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
Vous êtes toujours sur C'est d'actu, on va passer à notre deuxième invité du jour. On écoute cette fois Samuel Gallet qui vient nous présenter la pièce Le Pays Innocent, réalisée avec son collectif Escandar. Bonjour Samuel Gallet.
Bonjour.
Vous êtes dramaturge et metteur en scène au sein du collectif Escandar. Vous êtes aussi artiste associé à la scène nationale. Et vous venez nous présenter Le Pays Innocent, la dernière création de ce collectif Escandar, qui sera joué au Quinconce du 16 au 18 octobre. Alors c'est l'histoire d'un garçon en combinaison spatiale, en quête d'un monde utopique. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous parler un peu d'abord de ce collectif Escandar et de ses principaux axes de travail?
Bien sûr, alors c'est merci beaucoup pour votre invitation. Le collectif Escandar, donc, c'est une compagnie que je dirige avec Pierre Maurice, qui est dramaturge et comédien, depuis maintenant une dizaine d'années. On est basé en Normandie, à Caen. Et ce collectif travaille, je dirais, sur deux axes. Le premier, c'est la création de spectacles que j'écris et que je mets en scène, avec une signature artistique où il y a toujours des musiciens au plateau. Donc c'est vraiment un travail théâtral de théâtre et musique, théâtre, musique et poésie. Et un deuxième axe de travail où, à partir de rencontres dans des villes, des villages, des quartiers, autour des questions qui ont trait à l'imaginaire, au rêve et à l'écologie, on écrit comme ça, en fonction de rencontres que l'on fait, des séries de textes, de poèmes et de chansons autour de ces questions. Donc vraiment, c'est des spectacles et des performances que l'on mène autour de la question, je dirais, centrale qui nous anime, qui est comment vivre dans un monde abîmé. Comment grandir dans un monde abîmé avec la situation et de la crise écologique, sans perdre la joie, sans perdre l'espoir de pouvoir inventer un monde plus juste et un monde plus vivable pour tous et toutes.
Alors, on va revenir sur plusieurs points que vous avez évoqués. Abordons déjà cette dernière pièce, Le Pays Innocent. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le récit de cette pièce?
Alors, c'est l'histoire d'une femme qui persuadée, à tort ou à raison, qu'on ne peut plus vivre dans ce monde actuel parce que le monde est en train de mourir par rapport à la question écologique, qui habille son petit garçon d'une combinaison de spationautes et qui l'envoie comme cela dans un monde imaginaire, dans un monde du conte, un conte qu'elle appelle le pays innocent. En fait, elle l'envoie sur une autre planète, dans un multivers, on pourrait dire, dans un monde parallèle, où il y aurait un pays qu'elle appelle le pays innocent, où n'existerait ni la violence, ni la dévastation, et un pays qui serait dans une immense planète recouverte de forêts épaisses et profondes. Et selon elle, tout ce qui meurt ici sur Terre renaît sur cette autre Terre. Et donc, on suit ça commence dans cet univers qui est peut-être le nôtre, dans un univers comme ça en difficulté, et on suit l'aventure de cet enfant qui est envoyé sur cette autre planète.
Okay. Alors c'est un spectacle qui s'adresse plutôt à quel public du coup?
Ah, ça s'adresse à tout le monde. Alors ça s'adresse vraiment à tout le monde, je dirais, à partir de 12 ans. Mais on n'est pas du tout à penser qu'il y a des gens qui pourraient plus ou moins recevoir nos travaux. C'est quand même un théâtre qui se construit beaucoup avec la présence musicale et donc qui est aussi très de l'ordre du conte, du récit et que je crois être assez accessible à tous et toutes.
Est-ce qu'on peut dire, d'après la manière dont vous nous l'avez présenté, que Le Pays Innocent est une forme de fable écologique?
Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est l'histoire d'une femme qui est désespérée parce qu'elle se dit qu'au fait, tout meurt ici, hein, dans les animaux, les plantes, qu'il y a des incendies, etc., qui est angoissée, comme on peut l'être tous et toutes face à la question climatique, et qui imagine, en fait, pour son fils, un autre monde qui serait justement plus vivable. Et d'une certaine manière, cet autre monde qu'elle imagine, lui, son enfant, qui est tout petit, il a 5 ans, se met véritablement à le vivre. Donc à travers la mort du monde d'aujourd'hui, qui réel ou imaginaire de cette femme, un nouveau monde jaillit. Donc c'est peut-être un monde parallèle, mais c'est peut-être aussi le monde de demain. C'est peut-être aussi là où d'un coup les choses renaissent, les choses se mettent à revivre et où la Terre redevient habitable pour le plus grand nombre.
Oui, parce que vous l'avez évoqué, l'une des questions fondamentales qui travaille votre collectif, c'est la question de la possibilité de vivre au sein de la catastrophe. Quelle catastrophe est-ce qu'il faut entendre exactement? On croit comprendre que c'est la catastrophe écologique. Est-ce que c'est seulement la catastrophe écologique?
Alors oui, c'est qu'est-ce que produit la situation de réchauffement climatique et notre difficulté en tant que civilisation à s'y confronter? Alors je dis, ça a l'air un peu comme ça massif, mais finalement c'est la catastrophe, c'est pas forcément l'énorme catastrophe, c'est simplement qu'est-ce que d'un coup cette nouvelle donnée du monde fait à nos vies, et d'un point de vue social, le réchauffement ça a des conséquences directes sur la manière dont les gens ont d'habiter les villes, par exemple, ou les campagnes aussi. La question environnementale, les nouvelles formes de risques avec les inondations, avec les tempêtes, etc. Et puis aussi à l'endroit d'imaginaire, pourquoi d'un coup cette catastrophe, cette manière qu'on a de nous présenter aussi la catastrophe peut aussi nous rendre anxieux, nous permettre, nous empêcher véritablement d'imaginer en fait que malgré cette situation difficile, on puisse inventer d'autres sociétés plus vivables. Donc en fait, cette catastrophe-là, au fond, c'est qu'est-ce qu'on dit catastrophe ? Peut-être que c'est ça, ça a un côté un peu, ça bouche la manière de le penser. C'est juste, au fond, nous vivons une nouvelle donnée dans notre monde aujourd'hui, qui est la possibilité que la Terre devienne inhabitable. Qu'est-ce qu'on fait pour l'habiter ? Qu'est-ce qu'on fait pour la transformer, pour inventer une autre société, et d'un point de vue concret, et puis aussi d'un point de vue imaginaire, parce que l'imaginaire nous permet aussi d'inventer des alternatives. Mmh.
Je vous posais cette question parce qu'en plus de la catastrophe écologique, on peut aussi penser au climat de guerre qui est assez général, qui est en train de monter un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui entre en considération aussi ou pas forcément ?
Oui et non, c'est-à-dire que bien sûr, en fait, je pense que chez cette femme, parce que c'est une pièce qui est plus qu'un, c'est pas un essai, on n'est pas là, je veux pas, c'est vraiment une histoire très simple. Au fond, c'est une femme commune, hein, comme nous tous et toutes, je veux dire commune, qui vit là et qui est confrontée face à la peur de l'avenir, hein, que d'un coup l'avenir semble bouché, l'avenir est impossible, on a du mal à imaginer un avenir qui ne soit pas exclusivement catastrophique ou ça soit pas pire qu'aujourd'hui. Et donc oui, la question de la guerre, la question de la fin du monde, toutes ces questions nous hantent et cette femme, ça la hante. Et donc, d'un coup, il y a quelque chose qui fait que par l'imaginaire et par la force de l'enfance, on essaie au contraire de se libérer de ce qui nous écrase, de se libérer de ce qui nous sidère. Et de ce qui nous sidère, bah, c'est effectivement des grandes angoisses civilisationnelles, guerrières, écologiques. Et que humblement, à l'endroit extrêmement humble du théâtre, parce qu'on est, c'est tout petit, hein, le théâtre, hein, c'est joyeux, c'est à la fois tout petit et immense, mais c'est tout petit, eh bien, on essaie de se dire comment on peut reprendre pied dans cette époque, reprendre énergie dans cette époque, et malgré ce climat délétère, réussir à accréditer que d'autres systèmes sont possibles, d'autres manières de vivre sont possibles et que la vie vaut le coup d'être vécue.
Vous insistez beaucoup sur le côté imagination, conte, mythe, pour parler en fait de situations qui sont très concrètes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en entreprenant ce décalage que le propos puisse manquer sa cime ? Comment en fait est-ce que l'imaginaire, il permet de parler du réel ?
Ça, c'est très intéressant. Alors, au fond, tout le travail du collectif, c'est de partir de situations très réelles. On part toujours d'un réel social très précis, avec des situations d'aujourd'hui, des gens qui souvent se retrouvent bloqués dans leur vie, etc. Et on essaie de voir comment le rêve, comment l'imaginaire, comment la représentation que l'on a de soi peut influer sur notre manière de vivre. Et donc, c'est une tension comme ça permanente entre le réel et l'imaginaire. Et je crois que moi, par exemple, si on n'arrive pas à imaginer demain, si on a du mal à se dire, tiens, quels seraient les autres systèmes possibles, si on est convaincu au fond quotidiennement que le monde dans lequel on est comme ça et pas autrement, et bien effectivement on aura du mal à pouvoir construire autre chose. Donc je pense que l'imaginaire, c'est aussi la capacité de rêverie, c'est aussi la capacité de s'autoriser à inventer d'autres types de vie, d'autres formes de vie, d'autres manières de se relationner entre nous les humains, mais aussi avec les autres écosystèmes, et que cet imaginaire là permet ensuite d'agir, quoi. Donc
Donc
je pense qu'en fait, moi, je pense que l'imaginaire est une grande force, et qu'on est à la fois des êtres qui sont des êtres réels, et en même temps, on est aussi la manière qu'on a de se représenter sur Terre, en lien avec les sociétés, mais aussi en lien avec le cosmos, avec l'invisible. C'est-à-dire que je crois que c'est fondamentalement ça aussi qui fait qu'on est des êtres humains, hein, c'est-à-dire la manière dont on se rêve, en fait, la manière dont on se pense dans le cosmos, dans l'univers.
Et alors, quel rôle il a dans cette dialectique que vous expliquez ? Quel rôle il a ce costume de spationaute dont la mère décide de vêtir l'enfant ?
Je crois que là, vous verrez dans la pièce, il y a un humour comme ça, de se dire aujourd'hui, justement, il y a beaucoup cette présentation, je voudrais pas être trop catastrophiste, justement, mais on dit, oh là là, c'est la catastrophe partout, la Terre, etc. Et puis on a des figures comme ça, comme Elon Musk, par exemple, qui nous disent, bah voilà, il faut aller sur Mars, terraformer Mars, etc. Et donc l'idée que l'issue serait dans l'espace, au fond, bah là je la prends un peu au sérieux, je me dis, bah cette femme imagine que de l'autre côté d'un trou noir, il y aurait une autre vie possible, et donc elle se dit, bah voilà, il faut que mon petit garçon soit un spationaute et qu'il parte sur une autre planète, plus une exoplanète, avec voilà cette idée qu'on a, c'est ce rêve qui peut être d'ailleurs très beau, de la conquête spatiale, à des millions d'années-lumière de la Terre, et peut-être y a-t-il d'autres formes de vie, peut-être y a-t-il d'autres mondes, et ça c'est bien aussi de rêver à cela, mais que d'un coup ce qui nous paraît être un peu sans issue, bah c'est dans les étoiles qu'on essaie de trouver des échappées, quoi. Donc c'est ça que ça raconte, la combinaison spatiale, très simplement.
Alors la plupart des récits post-apocalyptiques, ils sont par définition pessimistes. On ne peut s'empêcher de penser par exemple à La Route de Cormac McCarthy, illustrée l'année dernière en bande dessinée par Manu Larsonnet, et dans laquelle deux personnages traversent un monde en ruine à la recherche d'un Éden incertain, qui serait un peu peut-être l'équivalent du Pays Innocent d'ailleurs. comment votre pièce Le Pays Innocent se situe-t-il, se situe-t-elle plutôt, par rapport à ce pessimisme qui paraît inévitable quand on parle du monde qui a connu la catastrophe?
Alors je crois que, en fait, la question du pessimisme ou de l'optimisme, c'est pas la question que je me pose. Moi, je me pose D'accord. la question de, enfin, comment dirais-je, comment l'invention de l'avenir, les récits apocalyptiques, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent produire? Et j'ai l'impression qu'il y a deux types de récits. Alors quand on cite Cormac McCarthy, c'est écrasant parce que c'est un écrivain tellement gigantesque et tellement génial, enfin que j'adore. Mais à mon humble endroit, je vais dire qu'il y a à la fois des récits qui peuvent être des dystopies, donc des récits qui racontent le monde de demain ou d'après-demain, et qui nous produisent en fait une forme de fascination un peu terrifiée, et où on se dit de toute façon c'est foutu, et donc le monde dans lequel on est finalement n'est pas si mal. Et il y a des manières d'imaginer l'avenir qui sont pas forcément des dystopies, ça veut pas dire qu'il y a pas de la catastrophe, mais où d'un coup ça nous permet au contraire d'imaginer qu'il y a des issues, de repenser la manière qu'on a de vivre aujourd'hui, de se relationner dans le politique, dans le rapport. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, encore une fois très humblement, mais c'est ça mon enjeu, c'est de me dire comment cette idée un peu fantastique de science-fiction, cet imaginaire de l'avenir, cet imaginaire d'autres mondes, va essayer de produire un effet qui sera davantage un effet de pour se réconcilier avec notre présent et avec la possibilité de le transformer, plutôt que nous dire au fond tout est perdu, c'est que des régimes très, très serrés, très, très autoritaires qui peuvent, au fond, nous sauver. Je ne sais pas si je suis clair, mais pour moi, il y a deux choses très différentes. Donc, et j'ai l'impression que, par exemple, les gros blockbusters américains peuvent produire des choses, au contraire, où on se dit, bon, bah, finalement, on n'est pas si mal. Mais qu'est-ce que serait que la science-fiction? Je pense qu'il y a des autrices comme Ursula K. Le Guin, c'est-à-dire des choses qui, d'un coup, vont raconter d'autres possibles, d'autres cités, d'autres manières de vivre, d'autres manières d'imaginer la société. Et donc, à l'endroit du Pays Innocent et du collectif Escandard, je crois que c'est ça qui nous anime véritablement. Donc au fond, c'est pas forcément du pessimisme ou de l'optimisme, mais en tout cas c'est des possibles, et je crois que c'est un théâtre des possibles.
On va aborder maintenant des questions de forme, si vous voulez bien. Quand on cherche des images de la pièce, on trouve quelque chose qui fait davantage penser à la photographie ou au cinéma. Quel dispositif scénique qui est mis en place, en fait?
Alors, les photographies sont de Dan Ramahen, donc on a beaucoup travaillé avec lui, donc c'est aussi ces espaces qui nous nourrissent, mais ça ne rend pas compte au fond de la mise en scène. La mise en scène, c'est une mise en scène où on a au fond une toile en soie qui progressivement, par tout un travail de lumière, il y a un travail de la lumière qui est très important, va se mettre à exister. Donc en fait, on part dans un décor très, je vais pas réaliste, mais en tout cas qui renvoie vraiment à la question du béton, à la question des villes, à la question de ce que l'on connaît, hein, de ces villes-là d'aujourd'hui, et plutôt des quartiers de banlieue avec des immeubles ou des maisons mal en point. Et progressivement, par le travail de la lumière, par l'arrivée de la terre qui va tomber du plafond, par l'arrivée des arbres qui se mettent un peu à envahir le plateau, on bascule comme ça dans cette planète-là. Donc on est comme ça progressivement de cet espace vide et un peu contemporain, un peu réalisme social, on bascule dans l'imaginaire. Sur le dispositif, on a aussi, je le rappelle, vraiment la présence des musiciens toujours au plateau. Donc c'est vraiment cette idée d'un théâtre qui est toujours à vue, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui accompagnent véritablement cette histoire.
Alors ces musiciens, c'est un contrebassiste et une ondiste?
Oui, c'est ça. Alors l'ondiste, c'est de l'onde Marteneau, qui est un instrument qui a maintenant une centaine d'années, qui n'est pas très pratiqué, qui est très beau. C'est un peu l'ancêtre du synthétiseur. Donc ça se joue à la fois comme un piano, et en même temps il y a un fil qui permet de créer des ondes. Donc on joue avec une bague. Et alors c'est très beau, et c'est une compositrice qui s'appelle Nadia Ratsimandresi, qui est aussi au plateau, qui joue de cet instrument et qui participe véritablement de créer aussi ce surréel, ce monde de l'imaginaire, qui peut être en fait plus réel d'ailleurs que le monde réel.
Et parce que ce mélange entre texte et musique, c'est quelque chose qu'on a tendance à retrouver de plus en plus dans le théâtre contemporain. Comment est-ce que vous en emparez, vous, spécifiquement?
Alors moi, je ne sais pas exactement. En tout cas, oui, bien sûr, je pense que c'est parce que c'est passionnant et parce qu'effectivement, en tout cas, moi, en tant qu'écrivain, j'ai un vrai rapport à la musique quand j'écris. Et je sens aussi qu'à quel point, dans les rencontres que j'ai faites artistiques, c'est beaucoup avec des musiciens et des musiciennes qu'un rapport s'est tissé. Moi, je crois que ce que me permet la musique, c'est aussi de sortir aussi de la situation, d'aller vers du poème, aller vers du lyrisme. Donc on s'en empare, au fond, comme une forme où on peut passer d'une forme justement à une autre, des situations de théâtre, des dialogues, et des moments où on rentre dans la poésie, où on rentre dans le récit, où on rentre dans le conte, et la musique là navigue comme cela avec nous pour créer ces espaces-là, quoi.
Alors vous avez parlé, vous avez pas mal parlé déjà de l'enjeu de cette pièce. Le but, c'est ni vraiment d'alerter, ni d'effrayer, mais en fait plutôt de susciter l'imagination sur les futurs possibles. Est-ce que ça reste quand même un but politique derrière? Est-ce que vous pensez que l'art a ce pouvoir-là de déclencher des réactions politiques.
Alors, je ne sais pas. Et en tout cas, je ne sais pas ce que l'art peut produire. Par contre, je pense que l'art peut permettre de s'interroger collectivement sur ce que nous avons en commun. Mmh. Et je crois qu'en s'interrogeant sur ce que nous avons en commun, s'interroger sur un certain état du monde, en mettant ensuite en jeu des récits, des représentations, peut-être que ça peut nous donner des armes imaginaires, justement, pour ne pas se retrouver seul face à l'angoisse. Et j'ai l'impression que l'angoisse, c'est justement de se dire je ne sais pas quoi penser du monde, je suis juste terrifié. Moi, je pense que l'art, en fait, nous permet de voir, de mieux voir le monde tel qu'il existe, tel qu'il est, tel que nous l'avons en partage et tel que nous pouvons espérer le transformer.
Est-ce que vous estimez, du coup, que cette impulsion qui doit avoir lieu pour amener Impossible vivable, il doit se situer plutôt, du coup, du côté du public, du corps social, plutôt que des pouvoirs politiques, en fait?
Bah, je crois que c'est... Moi, je pense que de toute façon, c'est lié. Et puis, on n'a pas l'impression... Je ne dirais pas qu'on fait un théâtre politique, si vous voulez. Je pense qu'on fait un travail vraiment sur comment on part de l'imaginaire commun, de l'imaginaire collectif d'aujourd'hui et comment on le travaille. J'ai l'impression que les choses sont mêlées. Je ne sais pas. Je pense qu'au fond... Je serais bien malin de dire quelle est la solution. En tout cas, j'ai l'impression que là, les pouvoirs politiques, je pense qu'il y a plein de pouvoirs politiques qui sont inaptes aujourd'hui et qui le prouvent bien de pouvoir apporter une quelconque solution à la catastrophe écologique. Et en même temps, il y a aussi plein de pouvoirs politiques qui ne cessent de le travailler. Ça dépend des endroits. De la même manière, il y a aussi des espaces où les gens inventent d'autres manières de faire, d'autres manières de travailler. Donc moi, en tant qu'artiste, je pense que oui, il y a un endroit dans la société qui est en mouvement véritablement et qu'il faut pouvoir entendre. Après nous, le travail, il est pas, comment dirais-je, on fait pas un théâtre qui est un théâtre documentaire, on fait vraiment un théâtre, un théâtre des possibles, un théâtre de l'inconscient, un théâtre de comment on part. Moi, je crois que c'est ça qu'on essaie de raconter, c'est comment on part d'un état où on se sent impuissant pour essayer de retrouver une manière de se réapproprier quelque chose d'aujourd'hui, du monde, des forces pour penser le monde d'aujourd'hui, etc.
Pas un théâtre militant, en tout cas.
Non, c'est pas un théâtre militant, c'est pas... Non, Dieu sait que j'ai vu des spectacles militants qui sont super, mais je crois vraiment qu'au fond, nous, c'est un théâtre du... C'est un conte cruel, on pourrait dire, c'est un théâtre des possibles, c'est-à-dire qui essaie d'ouvrir dans l'imaginaire qui raconte comment des gens, en fait, tentent de se sortir d'un sentiment d'abattement et de sidération et se découvrent, en fait, beaucoup plus riches qu'ils ne pensaient qu'ils ne l'étaient. Riches en termes d'intériorité, etc.
Je vous remercie, Samuel Gallet, de nous avoir parlé de la pièce Le Pays Innocent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Par le collectif Escandard, ce sera le 16, 17 et 18 octobre.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été à notre écoute. On se retrouve lundi 14 octobre pour parler d'un spectacle de danse de Sylvain Riejoux, de la prochaine programmation du Cinépoche. Et on écoutera aussi le maire Stéphane Le Foll au micro de Robin Hulin lors de sa conférence de presse du vendredi 11 octobre 2024. À bientôt sur notre antenne.
Radio Alpa, l'alternative.